vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 111, les petites bêtes qui montent, Johan Hugues. Chers amis, bonjour. Allez, les petites bêtes, voilà un bon sujet pour faire des blagues, pour se moquer de l'anthropomorphisme et des assurances tenaces des défenseurs végétariens du bien-être animal. Et l'occasion de citer Descartes et des animaux qui ne sont que de la barbaque à quatre pattes, sans raison ni âme. Eh bien non ! Nos amis les bêtes, ce ne sont pas que les compagnons ersatz des petites mamies qui vivent toutes seules, et ce n'est pas non plus l'envie de voir un lion et une girafe empaillés au musée zoologique. Les animaux, c'est nous. Et il est aussi important et passionnant d'étudier les animaux, alors merci Darwin, pour mieux nous connaître. Et c'est pour cela qu'il y a des gens absolument fantastique, c'est-à-dire qu'ils connaissent plein de choses, qu'ils ont une culture immense, qu'ils aiment les arts, les lettres, la musique, la peinture et les animaux, comme par exemple Johan Hugues. Alors bonjour Johan Hugues.
Bonjour.
Alors vous êtes médiatrice culturelle au musée zoologique de Strasbourg. Alors, votre vrai titre, votre fonction, c'est beaucoup plus long, c'est plus élaboré?
C'est un peu plus long. Je suis chargée de médiation et de projets culturels, mais mon cœur de métier, c'est bien la médiation culturelle.
D'accord. Et vous êtes guide aussi?
Je suis aussi guide conférencière. Ce n'est pas le cas de tous les médiateurs, mais j'ai donc la carte délivrée par l'État pour être guide conférencière nationale.
Officielle?
Tout à fait.
C'est comme moi, j'ai la carte officielle de journaliste.
C'est voilà. Ça.
Et vous avez un numéro sur votre carte?
Mais je ne le connais pas par cœur.
Ah oui, mais, oui, mais c'est quand même c'est comme une pièce d'identité en fait.
Oui, oui, oui. Voilà. Ça donne le droit de guider dans les monuments nationaux et dans les musées nationaux.
D'accord. Et alors, on dit médiateur ou médiatrice? Comme c'est à la mode.
Alors, comme je suis une femme, on va dire médiatrice, mais oui. Si j'étais un homme, on dirait médiateur.
Oui, mais on ne dit pas médiateur pour tout le monde, non?
Non, c'est ce genre.
Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des hommes hôtesses de l'air? On ne dit pas hôte de l'air.
On dit steward, il me semble.
On est steward, ah oui, du coup, oui. Oui, ça change, voilà. Alors, tout de suite, j'ai envie de vous demander si le musée zoologique de Strasbourg, qui va bientôt rouvrir, est-ce qu'il ne va pas se transformer, alors je sais que c'est la question que tout le monde vous pose, en parc Disney World?
Alors, le musée zoologique rouvre effectivement bientôt cet automne et il a subi une métamorphose, il fait sa mue. Donc, il y aura des petits changements par rapport au musée que les Strasbourgeoises, les Strasbourgeois ont pu connaître par le passé. En revanche, on ne peut pas parler de Disney World puisque ça reste un musée qui répond aux exigences de la loi du 4 janvier 2002, Musée de France, donc qui doit conserver, présenter, enrichir ses collections, les diffuser au public le plus large possible à des fins d'éducation, de
délectation. Donc un musée, avant tout, c'est collectionner.
C'est un des éléments. En tout cas, on ne peut pas avoir de musée sans collection. Un musée, c'est une collection, mais qui est organisée en vue justement de permettre sa transmission et sa préservation au plus grand nombre, aux générations futures. Et il faut qu'il y ait des missions d'éducation, de diffusion, de valorisation qui soient organisées sous la forme d'expositions, de conférences, de visites, d'ateliers et qui soient assurées par, par des professionnels qualifiés.
Parce qu'on trouvait qu'un musée, ça pouvait être ennuyeux, qu'on passait plus de temps à lire les étiquettes qu'à regarder l'objet et qu'il fallait qu'il y ait une sorte d'animation. Et puis c'est populaire de dire grand public, que tout le monde va aller voir.
Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites là. La question de l'ennui, effectivement, elle est revenue dans les débats sur l'utilité du musée, à qui s'adresse le musée, pourquoi est-ce qu'on collectionne, à quoi ça sert de collectionner si finalement personne n'en profite, ou alors seulement un tout petit nombre qui a déjà les codes. C'est aussi dans une optique de meilleure éducation. Effectivement, si les étiquettes sont toutes petites, si elles sont illisibles, finalement, on a juste une juxtaposition, un amoncellement d'objets, mais on n'en tire pas grand-chose en termes de leçons. Et ensuite, la question que vous avez posée, c'est celle...
Mais est-ce que ça doit être... pédagogique, ou alors simplement on s'intéresse, je sais pas moi, aux moustiques et on va voir les moustiques, parce qu'il y a 1 200 000 spécimens au musée de Strasbourg.
Dont une grande partie d'arthropodes, donc, d'insectes notamment, voilà, mais ça fait une sacrée diversité.
Alors, bon, c'est 1 200 000 animaux, c'est quand même beaucoup, donc effectivement on n'a pas le temps de s'ennuyer si on veut tout voir. Alors j'ai calculé que si on passe 5 secondes à regarder chacun des animaux dans le musée. Bon, s'ils étaient tous exposés, je suppose qu'il y en a qui sont dans des boîtes à la cave ou au grenier. Ou
dans les réserves, dans un certain nombre. Oui, on est loin d'exposer les 1 200 000 spécimens. Dans le parcours, c'est plutôt autour de 6 000, 7 000 qui seront exposés.
Alors, ah oui, quand même. Ouais, bah c'est même pas un centième.
Mais parce que, comme je vous disais, il y en a beaucoup. Ce sont des arthropodes, donc
des
tout petits animaux.
Sauf que les spécialistes savent que c'est pas les mêmes.
Qui ne sont pas forcément tous montrables et qui peuvent être consultés par les chercheurs sur demande.
Ah oui.
Donc on aura des salles justement d'études des collections au dernier étage du musée. Ils ont vocation à servir à la recherche.
C'est comme à la BNU, on veut un bouquin très précis, ils sont tellement sympas.
S'il est en réserve, on peut quand même le demander.
On peut le demander. Oui. Alors j'ai calculé, ça fait quand même 1666 heures, soit 70 jours, jour et nuit. À temps complet pour tout voir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura des gens qui viendront assez souvent au musée ou alors c'est juste une promenade pour voir le lion et la girafe empaillée, comme ça,
alors,
avec
la
grand-mère?
Je suis désolée de vous l'apprendre, elle n'est plus là.
Elle a été
pendant longtemps dans le hall du musée, donc la girafe naturalisée.
C'est pour ça que
mais justement, comme elle y a passé très longtemps, elle a été abîmée, en fait, un spécimen. C'est comme une œuvre d'art, ça a subi l'exposition, la lumière du soleil, le passage, l'usure du temps. Et donc là, elle n'est plus en assez bon état pour être montrée. Elle est remplacée par un squelette de baleine, une baleine à dents. Qui a été suspendu récemment dans le hall, mais que les publics pourront découvrir à la réouverture. Et il y aura aussi tout un ensemble d'autres spécimens qui seront présentés dans des étagères sur 3 niveaux. Donc quand on entrera dans le musée,
et
le
lion,
musée,
il est
on
toujours
lèvera
là.
La tête. Le lion ne sera pas montré non plus.
Ah, parce qu'il y a un lion à bicolore, si je me souviens bien, non?
Il y a un lion de l'Atlas. Qui est effectivement un des spécimens emblématiques du musée, mais qui ne sera pas dans le futur parcours.
Ah, dites donc, un musée sans lion, c'est possible ça?
Mais oui, c'est possible parce qu'il y a plein d'autres choses.
Ben oui, oui. Est-ce que vous avez des albatros?
Oui.
Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage et tout.
Il y a un albatros, si je ne me trompe pas, qui est très impressionnant dans sa position de naturalisation. Il a les ailes grandes ouvertes déployées.
Ses ailes de géant.
Il a une sacrée envergure.
Voilà. Merci Baudelaire. Donc alors, après avoir fanfaronné, comme je viens de le faire, sur les petites bêtes, je dois vous exprimer mon admiration, Johann Hugues. Vous êtes diplômé de l'école du Louvre.
Alors, oui, c'est ça.
Alors là, c'est le rêve de tous les étudiants en histoire de l'art. Hein. Non, bah, franchement, c'est formidable. Et vous avez un double master en Sciences Po, à Nancy et à Heidelberg. In Heidelberg hatte ich mein Herz verloren. Hein, c'est pour mettre le verbe à la fin. Hein, c'est ça.
Oui, c'est
une
ça.
Des règles qu'on apprend. Et puis, vous êtes une spécialiste. Alors, je simplifie. Une spécialiste de mosaïque byzantine dans la cathédrale de Westminster à Londres. Westminster Cathedral. C'est, alors, est-ce que vous savez qui chantait ça? J'ai cherché hier soir.
Mais je dois dire que non, ça ne me parle pas.
Ah ben voilà, mais c'est une chanson de 1966. C'était un tube, il est arrivé premier dans les chartes anglaises. Ça s'appelle Westminster Cathedral. Et le groupe qui chantait ça s'appelait le New Vaudeville Band.
Ah ben j'aurais appris quelque chose.
Ah non, mais
merci.
Regardez ça, c'est génial. Vous allez garder. Alors c'est terrible parce que vous allez garder l'air dans la tête pendant.
Pour toute la journée, là, c'est sûr.
Oui, c'est un truc. Mais c'était formidable, voilà. Et alors, à l'époque, on se demandait, donc 1966, est-ce que c'est un slow ou un jerk. C'est-à-dire que dans les booms, est-ce qu'on le met pour danser, et donc il fallait inviter une jeune fille, ou c'est un jerk, où tout le monde va sur, dans le garage, où on faisait nos booms, voilà. Donc, comment ça se fait que vous vous intéressiez à l'art byzantin à Westminster?
Oui, c'est vrai que pour en arriver là, il faut que je retrace un petit peu le chemin. Donc, c'était le sujet de mon mémoire de master en recherche en histoire et histoire de l'art. Et en fait, je suis arrivée à l'histoire de l'art par des chemins un petit peu détournés. J'ai commencé donc à faire des études en sciences politiques. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait un double diplôme avec l'école du Louvre. J'ai fait une année d'Erasmus à Heidelberg. Et j'ai pris un petit peu tous les séminaires d'histoire de l'art que je pouvais trouver pour justement me nourrir, construire un peu les bases de ces disciplines. Et j'avais un séminaire d'histoire de l'art byzantin et paléo-chrétien. Et ça a été le coup de foudre. J'ai été complètement émerveillée parce que j'ai découvert les mosaïques de l'Orient chrétien. Et j'ai essayé de réunir ensuite ces deux aspects, donc l'histoire plutôt contemporaine occidentale que j'avais pu étudier déjà en licence, et cette découverte de l'art byzantin, des mosaïques en particulier, dans le cadre de mon sujet de recherche de master. Parce que j'ai découvert qu'à Londres, il y avait une cathédrale catholique qui avait été décoré entièrement, sol, mur, plafond, de mosaïques, dans un style qu'on peut qualifier de néo-byzantin. on reprend certains codes de l'Antiquité tardive, du Moyen-Âge oriental.
Et cette cathédrale date de quelle époque ?
Elle a été construite à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Ah oui, donc c'est très récent.
Au moment de la Renaissance catholique au Royaume-Uni, en fait, où on essaye de redonner de la splendeur, de la grandeur et de rivaliser avec le protestantisme.
Avec
puisqu'elle est très proche de l'abbaye de Westminster, qui elle est bien protestante, anglicane. Elle n'est pas loin du tout, mais c'est le siège là de l'archevêque catholique.
Donc il y a l'abbaye et la cathédrale de Westminster. Et alors, donc, les architectes, c'était pour s'amuser ou c'était par conviction ?
C'était pour se distinguer.
Donc,
l'abbaye de Westminster, elle est construite dans un style, elle est médiévale, et donc on est sur du gothisme. Par contre, il fallait donc trouver autre chose, et si possible, quelque chose de plus ancien, qui permette de fonder une légitimité et de dire, en fait, vous n'avez pas la primeur, la religion, quelque part, c'est nous qui l'incarnons le mieux en Angleterre.
Oui.
Les racines de la religion anglaise sont catholiques et non pas protestantes.
Oui.
Et donc, pour ça, on a cherché à revenir un petit peu à tout ce qui se passait en Italie, à Byzance, l'ancien empire byzantin, et donc on a fait appel à ces éléments-là de style italien, byzantin, et pour se distinguer, se démarquer.
Alors, le prochain lieu de culte que l'on pourrait construire à Strasbourg, cela pourrait être une pyramide, hein, pour remonter à, je sais pas, 5000 ans avant Jésus-Christ, parce que, enfin, il y a 30 000 ans ou 40 000 ans.
Si c'est un lieu de culte polythéiste, peut-être.
Oui,
mais...
c'était pas vraiment une religion non plus, enfin, mais nos ancêtres, les Africains, hein, ça, on le sait, on a une fois interviewé, les Alsaciens sont des Africains, mais on était tous noirs, aux yeux bleus. Et puis, on a fait un petit tour vers l'Asie, on a commencé à boire du lait, et puis on est devenu ce que nous sommes. Mais une fiche du musée du zoo nous dit qu'il y a 900 000 insectes. Mais c'est 900 000, il n'y a pas 900 000 insectes dans le monde. Si.
Non. Là, on parle de spécimens d'individus conservés dans les collections.
Ah oui, donc il peut y avoir, il y a combien de mouches, par exemple ?
J'ai pas les chiffres exacts.
Voilà. Bon, enfin, il y en a des centaines, j'imagine.
Bien, oui, même oui, peut-être même ça. Plus, je pense.
Et vous les avez toutes ? Vous savez, c'est comme quand on collectionne les timbres ou les choses.
Est-ce qu'elles sont inventoriées ?
Oui.
Oui. C'est une des obligations quand on est un musée de France, c'est de tenir un inventaire qui est à jour. Et donc, on a une base de données qui nous permet de recenser très exactement chaque spécimen à un numéro d'inventaire. Et on sait où il est à chaque instant pour pouvoir le retrouver facilement. Parce que sinon, si on ne tient pas d'inventaire, vous imaginez bien qu'avec 1 200 000 spécimens et a fortiori 900 000 insectes, c'est un petit peu compliqué de retrouver la mouche qui
manque. La mouche qu'on cherche. Voilà, alors... Les mouches, elles ne sont pas là par hasard, ce sont des collectionneurs de mouches qui les ont apportées, parce que le musée date de 1902.
1893.
Bon, c'était en tout cas la période allemande. Hein. Et ils ont. Les occupants, entre guillemets, ont choisi Strasbourg parce que c'était une ville culturelle qui était en construction, qui s'étendait, la Neustadt. Au départ. Ce sont les directeurs des musées qui ont envoyé des gens chercher des mouches partout, ou alors c'est des gens qui avaient des collections chez eux à la maison et qui à la fin ne savaient plus quoi faire avec et vous les ont offertes.
C'est un mélange des deux. Si je reviens vraiment aux origines du musée zoologique, il est antérieur en fait à 1893. 1893, c'est le bâtiment qui a été construit, donc effectivement sous l'époque allemande. Mais les origines du musée, c'est le cabinet d'histoire naturelle du savant strasbourgeois Jean Hermann, qui est mort en 1800 et qui a fait don de sa collection, sa collection a été rachetée par la ville de Strasbourg. Donc ça, c'est l'origine de la collection. Lui, même avait constitué sa collection en faisant appel à ses relations, de nombreux savants partout en Europe qui partaient, eux, en expédition. Jean Hermann a très peu voyagé, mais a réussi à rassembler des collections très vastes et très variées par ce biais-là. Et
c'est des collections d'animaux.
Des collections, alors pas seulement, de végétaux aussi et de minéraux. Il avait des collections qui aujourd'hui feraient un muséum d'histoire naturelle, mais qui ont été séparées après sa mort. La ville a conservé les animaux, donc la partie zoologie, et l'université a hérité des collections minéralogiques et botaniques.
Et ce monsieur Hermann, j'imagine, avait beaucoup d'argent pour pouvoir acheter tout cela d'envoyer des gens partout dans le monde pour chercher...
Beaucoup d'argent, je ne sais pas. Il était enseignant.
Il était prof,
il était médecin, enseignant, naturaliste. Il avait une chaire à l'université de Strasbourg. Je ne saurais pas te dire combien à l'époque tout cela se monnayait, mais il avait beaucoup de relations. Il avait des relations épistolaires très suivies avec un certain nombre de savants, ce qui lui a permis, par ce biais-là, de se faire envoyer des spécimens provenant d'expéditions.
Alors, avant de vous demander pourquoi vous êtes maintenant à Strasbourg, je voulais savoir, est-ce qu'il y a encore des gens qui collectionnent à la maison des insectes, des animaux, des papillons? Quand on était gamin, on attrapait des... Alors, ça existe encore, maintenant, il n'y en a plus, des scarabées ou des petits insectes dans les prés, et puis on les mettait dans des boîtes avec un coton et de l'éther, et puis on avait la pauvre bête, avec une épingle, on la mettait sur une planche de liège...
Les hannetons,
voilà le mot que je cherchais. Oui.
C'est un des biais par lesquels les collections du musée zoologique continuent de s'accroître aujourd'hui, c'est les dons qui peuvent nous être faits par des particuliers qui ont chez eux des collections et qui souhaitent les léguer au musée. Et c'est donc après Jean Herman, il y a évidemment eu d'autres directeurs, des directeurs du musée zoologique qui ont eu à cœur justement d'encourager ces dons, de faire aussi des collectes, de faire appel à des savants, mais d'encourager les dons des universitaires, des savants, des particuliers. Et c'est comme ça, en partie, qu'on continue à enrichir nos collections aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a encore des papillons très très rares qui valent des fortunes, comme les timbres, je ne sais pas, le vermillon, qui vaut, je ne sais plus, 1 million, le timbre le plus rare du monde. Et il y a des papillons, il y a des gens qui seraient prêts à faire des folies pour avoir ce papillon rarissime.
J'imagine que oui, personnellement, je ne saurais vous dire lequel ni combien.
Mais il y a des animaux qui n'existent plus au musée.
Oui. Hein,
ceux qui ont disparu.
Oui, tout à fait.
À cause des prédateurs ou du changement climatique. Alors, j'avais relevé un nom qui s'appelle la tourte.
La tourte.
La tourte rouge. J'ai trouvé ça dans vos papiers, qui est un pigeon rouge, mais ça s'appelle la tourte rouge. Alors, ce n'est pas la tourte au fromage blanc de la rue Gaillière, qui est la meilleure de toute l'Alsace. Mais voilà, donc est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont disparu? Peut-être qu'ils reviendront un jour parce qu'il y a une larve qui dort quelque part.
Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui ont disparu et la plupart, on ne sait pas. Même pas qu'ils ont disparu, puisqu'on n'a pas eu le temps de les découvrir. C'est le cas pour des insectes, notamment. Il y a tous les jours des espèces animales qui disparaissent. Certaines sont plus emblématiques que d'autres. Évidemment, quand on parle d'animaux disparus, on va penser au dodo.
Voilà.
Alors, on n'a pas de spécimen de dodo au musée zoologique. En revanche, on en a d'autres qui sont peut-être plus connus. Le thylacine, par exemple. Le thylacine, qui est un loup marsupial. Qui en fait ressemble un petit peu à un croisement entre un loup, un tigre, en tout cas qu'on pouvait trouver en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui est disparu depuis 1936, et on est l'un des rares établissements en France à conserver un spécimen, et un spécimen naturalisé de très belle facture, qui sera présenté dans une vitrine aux côtés d'autres animaux disparus, à cause justement notamment de l'action de l'homme sur l'environnement. C'est un des fils rouges du futur parcours du musée zoologique, parler de cet impact des activités humaines sur nos écosystèmes, parler de changement climatique, de crise de la biodiversité aussi.
Alors tout ça, vous allez le mettre sur une petite étiquette à côté de l'animal ou c'est vous en tant que médiatrice qui allez le raconter? Et pourquoi vous êtes à Strasbourg?
Alors c'est les deux. Le musée, il vit dans la complémentarité entre les supports textuels, toutes les informations qu'on peut apporter sur l'agencement des vitrines, le discours qui est raconté aussi par la scénographie, la muséographie, la mise en lumière, etc. Et ensuite par l'apport de la médiation humaine, les médiateurs, mais aussi les équipes du musée qui peuvent être amenées à faire des visites, les scientifiques que l'on va inviter à faire des visites dans nos collections, dans nos séquences d'exposition. Et donc la question pourquoi est-ce que je suis à Strasbourg, à l'origine j'ai suivi mon compagnon qui est enseignant. Mais je me suis plu beaucoup à Strasbourg. J'ai eu la chance de pouvoir venir travailler au musée zoologique. Et comme j'avais déjà une affinité avec l'Allemagne et la langue allemande, j'étais très contente de pouvoir rester proche de la frontière et à terme de pouvoir utiliser l'allemand au quotidien dans ma pratique professionnelle.
Voilà. Et donc, quand on aime Strasbourg, on y reste. Est-ce qu'on peut imaginer rester à Strasbourg, mais rester au musée zoologique, se faire enfermer la nuit?
Moi, j'aimerais beaucoup. Je pense que je ne suis pas la seule.
Hein, c'est comme dans Tintin et Milou, je ne sais plus, il y a un personnage qui fait ça. Je crois que c'est dans le sceptre d'Ottokar. Ou alors Courbet, qui se laissait enfermer dans le musée la nuit avec une bougie, il repeignait. Il y avait des repentirs, il refaisait des choses comme ça. Donc, passer la nuit à regarder. Oh, je suppose qu'il va y avoir des nocturnes, des choses comme ça,
oui.
D'animation.
Hein,
ça,
oui,
c'est,
oui,
ça
tout
se
à fait.
Fait
il y en aura lorsqu'on communiquera sur la programmation de réouverture, mais il y en a déjà dans les autres musées du réseau de la ville de Strasbourg, puisque le musée zoologique fait partie des musées de la ville de Strasbourg. Et régulièrement, il y a des programmations des nocturnes, ne serait-ce que pour la nuit des musées, mais aussi des nocturnes étudiantes organisées par et pour les étudiants de Strasbourg. Et on s'intégrera évidemment dans cette programmation.
Et alors, lors de l'inauguration, Madame le maire viendra, j'imagine. Vous allez lui montrer les hamsters ? Non, je plaisante là, parce que je crois que c'est une spécialiste d'un des hamsters alsaciens.
Oui, il est possible, oui.
Oui, c'est ça. Oui, vous avez toutes ces bêtes locales.
Actuellement, comme le musée est fermé, on va dans les écoles de Strasbourg. On fait ce qu'on appelle du hors les murs dans notre jargon. Et dans une de nos animations, on montre un grand hamster d'Alsace. Et donc, on a à cœur de montrer, surtout dans ce qu'on fait là avec les enfants, des espèces locales. Parce que parfois, on a des images très nettes, on sait beaucoup de choses sur des animaux qui vivent très loin, mais on connaît beaucoup moins la biodiversité qui est tout autour de nous, qui est locale, régionale. Et donc, c'est un de nos axes de médiation.
Et alors, pour le visiteur qui va passer une heure, est-ce que c'est par continent ou c'est par les insectes, les mammifères? Comment est structuré le musée? Ou alors, au contraire, vous mélangez tout pour justement avoir un état d'esprit un peu plus ouvert?
Alors, il y a 4 séquences d'exposition. Une qui est une exposition permanente, qui va revenir sur les origines du musée zoologique, qui va aborder aussi la classification du vivant. Donc là, ça va être par groupe. Donc, on aura la grande galerie des oiseaux avec les 1000 oiseaux dedans, les carnivores, la salle avec les arthropodes, les insectes, mais pas que. Ensuite, on passera sur les expositions qu'on dit semi-permanentes, qui ont vocation à être renouvelées au bout d'un certain nombre d'années, pour justement suivre aussi les avancées de la recherche scientifique, rester en phase. Il y en aura une exposition qui portera sur les écosystèmes du Rhin supérieur, une autre sur l'océan, et notamment avec un focus sur la baie de Sagami au Japon, dont beaucoup de spécimens ont été rapportés par un des conservateurs au 19e siècle, et une troisième exposition semi-permanente sur les recherches que mènent les scientifiques aujourd'hui dans les laboratoires pour essayer de comprendre les raisons de la disparition des abeilles domestiques et endiguer la propagation de maladies par les moustiques qui sont vecteurs.
Alors vous parlez de l'océan, vous savez la différence entre la Bretagne et l'Alsace.
Vous allez me la dire, j'imagine.
En Bretagne, ils ont l'océan et on a l'Alsace, on a la mer Picon, la mer Pierre. Non, c'est une blague de Roger Siffert. Alors, vous êtes donc alsacienne maintenant.
D'adoption, oui.
D'adoption. J'ai cité Descartes avant. C'est un gros sujet de polémique avec.
Qui est clos maintenant.
Tous mais... ces gens qui. Le bien-être animal et qui. Ouais, on est en 2025, Johan Hugues, Trump, l'Ukraine, le Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut encore s'intéresser aux animaux?
Je pense que c'est essentiel et que si on avait un peu plus de recul sur notre place dans le vivant, sur les interrelations que l'on a avec l'ensemble des êtres vivants et de la nature qui nous entoure, peut-être que le monde ne serait pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui, que certaines choses nous paraîtraient plus insignifiantes. En tout cas, il est essentiel de pouvoir aiguiser son esprit critique, de pouvoir comprendre le travail des scientifiques pour justement mener ces débats en société et essayer de retrouver des manières de faire ensemble avec le vivant. Et je pense que c'est le rôle d'un musée comme le musée zoologique de permettre ces échanges et ces débats aujourd'hui.
Et vous êtes végétarienne?
Oui, je le suis.
Bon, qu'est-ce que vous pensez de la suppression du zoo dans le jardin de l'Orangerie?
C'est un projet qui a été porté par la municipalité, donc la transformation du mini-zoo de l'Orangerie pour en faire une ferme pédagogique. Je pense que ça répond en fait aux attentes aussi croissantes des habitants sur la question du bien-être animal. Est-ce qu'on pouvait continuer à avoir des animaux comme des lynx qui étaient dans des enclos petits? Et donc en tout cas, on est beaucoup plus en phase avec la manière qu'on a de considérer les animaux dans la ville et d'avoir des animaux qui sont plus adaptés. La mini-ferme, il y aura des animaux mais de ferme et pas des animaux sauvages qui ne sont pas adaptés à ce type de vie en captivité.
Oui, mais vous pensez vraiment qu'ils ont une âme, les animaux? J'en reviens à mon astuce du départ.
En tout cas, oui, je pense que la distinction que Descartes faisait entre l'animal qui est dépourvu d'âme et l'humain qui, lui, en a une, n'est plus du tout d'actualité. Et c'est quelque chose qui fait consensus aujourd'hui parmi les scientifiques, les chercheurs et plus largement au sein de la société.
Oui, donc c'est un combat d'arrière-garde que de dire que... D'ailleurs, il y a une directive européenne qui date de 2010. Alors, Wissenschaftler, bon, mon accent alsacien pour parler en allemand, qui justifie la connaissance scientifique et qui justifie aussi le fait qu'on fasse de l'expérimentation scientifique avec des animaux, avec des souris qui sont élevées et tuées pour sauver les gens du cancer. Hein, je schématise. Non ?
Il y avait une question derrière
Oui, la question, c'est est-ce qu'il faut condamner les gens qui font de l'expérimentation scientifique avec des animaux ?
Alors, condamner, non, puisque ça reste dans le cadre de la loi, mais par contre, l'encadrer, ce qui est le cas, l'encadrer de plus en plus pour s'assurer que les animaux soient le plus possible dans des conditions dignes. Bon, ce sont des choses auxquelles on travaille.
Mais c'est la différence entre l'éthique et la philosophie et puis peut-être simplement le pragmatisme scientifique, non ?
Alors, l'éthique animale est quelque chose qui est intégré aux recherches scientifiques, aux travaux. C'est une philosophie appliquée en quelque sorte. On avait organisé une conférence il n'y a pas si longtemps avec justement une doctorante en éthique animale et je pense que il faut avoir tout ça en tête quand on travaille avec, sur des animaux. Et juste pour revenir sur la question de l'âme, alors aujourd'hui on parle plus d'âme, c'est plus ce débat là, mais en tout cas les animaux ont été reconnus comme des êtres doués de sensibilité, ce qui est une grande avancée par rapport déjà à des époques antérieures.
Eh bien, on ira au musée zoologique de Strasbourg vous rencontrer, hein, Johann Hugues.
Avec plaisir.
Voilà. Et peut-être que vous nous raconterez encore d'autres histoires.
J'espère bien. Et puis j'espère aussi que les personnes qui viendront au musée zoologique auront des histoires à raconter, puisque notre but, c'est d'échanger ensemble, avec grand plaisir.
C'était l'épisode numéro 111, Les petites bêtes qui montent, Johann Hugues. Grâce à vous, nous irons tous passer du temps au musée zoologique. La semaine prochaine, nous irons à la recherche de nos surprises lorsque nous sommes les pantins des jeux du hasard et du temps perdu. Alors, est-ce que Proust aimait les animaux ? Vous savez ? Non.
Je savais qu'il aimait les madeleines, mais les animaux,
oui.
Je ne sais pas.
Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est bzzz, bzzz, bzzz. Ah, je l'ai eu. Ambroise Perrin.